Un pied dans la rue, un pied dans les instances, tel est le slogan d'une organisation qu'on retrouve de plus en plus dans les manifestations et qui fait entendre sa voix lors des mobilisations contre la réforme des retraites actuellement. Au cœur de cette actualité brûlante que nous évoquerons également aujourd'hui, nous avions surtout envie d'apprendre à connaître la Voix lycéenne, un jeune syndicat mené par des jeunes qui donnent de la voix pour tracer leur voix. On en parle aujourd'hui avec Olivia Lalande, bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Merci Olivia d'être sur RVA avec nous. Vous êtes lycéenne à Clermont-Ferrand et responsable fédérale de la Voix lycéenne en Auvergne. La Voix lycéenne, syndicat créé en 2021, prenant la suite de l'historique UNL, l'Union nationale des lycéens. On va forcément parler ensemble des points de rupture, des actualités qui vous concernent. Mais déjà, présentez-nous un petit peu ce syndicat, Olivia. Pourquoi, pour vous, en tant que lycéenne, c'est important qu'un tel syndicat existe ?
Alors oui, comme vous l'avez dit, la Voix lycéenne, c'est une organisation de jeunesse, un syndicat lycéen qui voit le jour en novembre 2021 dans la continuité de l'UNL, qui était l'Union nationale des lycéens de France. Aujourd'hui, la Voix lycéenne, c'est une quarantaine d'adhérents sur le Puy-de-Dôme répartis sur 4 établissements depuis son retour sur le département en septembre. Et du coup, la Voix lycéenne, elle porte des revendications diverses, comme la gratuité de l'éducation, la fin de Parcoursup, un lycée plus écologique, ainsi que plus de moyens dans l'éducation nationale.
Aujourd'hui, vous avez le sentiment que dans les autres organisations, les autres partis politiques, syndicats, bref, tout ce qui est aujourd'hui différentes formes d'engagement dans la société, la voix des lycéens n'est pas assez représentée ?
Tout à fait, oui. Aujourd'hui, j'ai pu voir par mon expérience personnelle que quand on va dans un parti politique, qu'on dit qu'on a 15, 16, 17 ou 18 ans, on nous dit « mais t'es trop jeune pour faire de la politique ». Et c'est justement ça que nous, on met en avant à la Voix lycéenne, c'est qu'on peut avoir 15, 16, 17 ou 18 ans. Et ben, on est légitime à porter des combats, à porter des revendications et à les mener.
Olivia Lalande, en 2021, le journal La Croix titre un article, par ailleurs très intéressant à consulter, je vous laisserai le lire chez vous, qui s'appelle « Est-on sérieux quand on s'engage à 17 ans ?» Alors du coup, je me permets de vous retourner cette question volontairement et naïvement, parce que c'est vrai qu'on entend régulièrement que les jeunes ont sûrement autre chose à faire de leur vie que d'avoir des préoccupations sociétales et environnementales, qu'ils voudraient mieux avoir des petites histoires de cœur, des petites histoires de couple, se concentrer sur ses études. Au lieu d'avoir toutes ces préoccupations, alors du coup, je vous pose cette question. Est-ce qu'on est sérieux quand on s'engage à 17 ans ?
On est sérieux quand on s'engage à 17 ans. Moi, je vais vous dire, même quand on s'engage à 14 ans. Moi, ma première manif, je l'ai faite quand j'avais 14 ans, en décembre 2019. Et enfin, oui, on est sérieux parce qu'on a la conscience de classe, parce que on voit ce qui se passe autour de nous. On n'est pas aveuglé par la société et on se dit pas que, justement, la politique, c'est quelque chose pour les grandes personnes. Au contraire. Nous, ce qu'on voit à la Voix lycéenne et dans l'engagement lycéen, c'est que on peut être lycéen et on peut quand même s'engager. Et donc, on peut être engagé dans la structure lycéenne par le syndicat, par le parti politique, par le mouvement politique, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des histoires de cœur, d'avoir une vie comme nos pères, tout simplement.
Au-delà des actualités qu'on va évoquer d'ici quelques instants ensemble, Olivia Lalande, à titre personnel, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ? Qu'est-ce qui a été peut-être l'élément déclencheur chez vous ?
Alors moi, comme j'aime beaucoup dire, je suis arrivée en France en 2008 et en bas de ma rue en 2010, il y avait un squat et un jour, mon père, il m'amène à l'école, à la maternelle, j'étais en petite ou moyenne section. Il faisait super beau ce jour-là et il y a la police qui fait une descente de police à 8h30 parce que ce squat était juste devant mon école maternelle. Et à ce moment-là, il y a la police et je dis à mon père « Mais pourquoi est-ce que la police, elle est méchante avec les gens ?» Et enfin, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les inégalités, à comprendre les injustices. Et puis de par mon histoire personnelle un peu tumultueuse, j'ai pu connaître les inégalités et les injustices. Et aujourd'hui, dans le monde lycéen, ça s'est renforcé avec le dernier quinquennat de Macron, qui nous a précarisés avec la réforme du bac notamment et qui m'a mené à m'engager et à chercher des moyens de changer la société à mon échelle.
Parmi les figures du mouvement lycéen, il y a une personne qu'on est obligé de citer ici, c'est Louis Boyard, qui a été président de l'UNL en 2018 et aujourd'hui député de la France Insoumise dans le Val-de-Marne. Alors lui, il commence sa carrière en politique, mais ma question malgré tout est celle-ci, est-ce qu'il faut absolument se politiser pour s'engager quand on est jeune ? Est-ce que politique et engagement, ce sont finalement la même chose ?
Bah oui et non, oui, puisque justement, s'engager, c'est déjà faire de la politique. Moi, j'aime beaucoup citer l'exemple de la chaise. Déjà, quand vous vous asseyez sur une chaise, vous faites de la politique, puisque en fonction du milieu social dont vous venez, vous allez vous asseoir différemment. Donc c'est déjà faire de la politique d'une certaine manière. Et puis non, on n'est pas forcément obligé de se politiser en s'engageant, puisque bah justement, on peut aller vers les associations lycéennes, vers les mouvements lycéens, pour passer du temps avec nos pairs, échanger sur la vie de manière générale et essayer de la changer par nos moyens.
Et vous avez l'impression que ça peut fonctionner qu'avec, j'ai envie de dire, entre guillemets, vos petits mouvements, avec les petits gestes que vous faites en tant que lycéen, en tant que syndicat lycéen, les choses peuvent bouger, les choses peuvent changer, aussi bien concernant la réforme des retraites en ce moment, parce que vous êtes vraiment sur ce front-là, mais aussi sur les autres sujets qui vous animent.
Alors oui, tout à fait, on le voit, puisque nous, la voie lycéenne, on est implantée nationalement, comme je vous l'ai dit. Quand on se coordonne, on mène des actions massives. On l'a vu pendant la mobilisation des retraites, où c'est 250 lycées qui sont mobilisés à minima à chaque fois. Et enfin, on est convaincus que c'est en agissant en masse et sur tout le territoire que ça va marcher.
Dans les sujets qui vous animent particulièrement, il y a Parcoursup. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Olivia Lalande. Depuis plusieurs années, la voie lycéenne se dresse contre cette plateforme d'orientation post-bac. Dans les différentes manifestations, on peut même lire des slogans ou sur des pancartes que vous l'apparentez à une sorte d'Hunger Games. Et pour ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre, en fait, on sait que ce sont des jeux mortels où à la fin, il n'en reste qu'un, voire peut-être même personne. Pourquoi cette comparaison ? Assez péjoratif pour le coup.
Eh bien, parce que Parcoursup, c'est un algorithme dont on ne connaît pas vraiment le fonctionnement, dont on ne connaît pas vraiment les méthodes de sélection. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est la suite de l'algorithme APB, qui était l'acronyme de Admission Post-Bac, qui était un algorithme qui fonctionnait déjà plus ou moins. Et là, sur Parcoursup, ce qu'on ne connaît pas, c'est justement la manière dont sont sélectionnés les élèves. Du fait que ce soit assez complexe à remplir, puisque enfin on ne nous explique pas tout simplement comment est-ce qu'il faut faire. Et enfin, on connaît tous des parents de camarades de classe, des amis qui ont passé des heures et des heures, qui se sont énervés devant leur ordinateur parce qu'ils ne savaient tout simplement pas remplir leurs vœux sur cette plateforme. Et puis aussi, avant tout, c'est un moyen qui suscite beaucoup d'anxiété chez nos camarades de classe. Et enfin, alors qu'aujourd'hui, c'est 20% des lycéennes et des lycéens qui sont en dépression, selon les derniers chiffres du Forum français de la jeunesse, c'est rajouter de l'anxiété là où il n'y en a pas besoin. Et puis, on voit que c'est des centaines et des centaines d'élèves qui se retrouvent sans affectation ou avec une affectation qui ne leur convient pas. Et aujourd'hui, quand vous allez à la fac de Clermont, les étudiants, ils vont vous dire « Mais écoutez, moi, j'étais là avant Parcoursup. Je suis là après Parcoursup. Et je vois que dans les amphis, ça bavarde. Les élèves, ils sont plus intéressés par leurs cours. » Parce que c'est souvent des 8e, 9e, 10e choix qui sont attribués aux lycéennes et aux lycéens qui se retrouvent en faculté. Et ça, c'est problématique aujourd'hui.
Alors, vous êtes jeune et vous n'avez peut-être pas connu avant Parcoursup, mais est-ce que c'était mieux avant, finalement ? On a l'impression que Parcoursup n'est pas la solution idéale et apporte de l'anxiété. Les mots qui reviennent généralement dans les différentes interviews de lycéens qui parlent de Parcoursup, c'est anxiogène et inégalitaire. Okay. Donc là, c'est vraiment des mots que vous avez aussi employés. Mais est-ce que les méthodes précédentes étaient forcément mieux aussi ?
Moi, je vais vous dire, de ce que j'ai eu comme retour, oui, l'ancien baccalauréat était mieux, puisque il y a certes Parcoursup qui est le gros du sujet. Mais derrière Parcoursup, il y a la réforme du baccalauréat. Et la réforme du baccalauréat, avec les enseignements de spécialité choisis par les élèves menant à une individualisation des parcours, eh bien, c'est ça qui rend le baccalauréat inégalitaire et qui s'inscrit dans la logique de Parcoursup. Puisque on voit qu'aujourd'hui, chaque élève peut choisir des enseignements de spécialité différents. Et donc, c'est justement par ces profils différents que Parcoursup participe à ce renforcement des inégalités dans la société.
Alors qu'en ayant un enseignement général, on tendrait davantage vers une égalité des chances.
C'est ça, et puis même avant, quand on avait les filières S, ES et littéraire, eh bien, on avait certes trois groupes sociaux, entre guillemets, mais par contre, on avait des personnes qui se retrouvaient. Aujourd'hui, moi, j'ai SES, HGGSP, SVT comme enseignement de spécialité.
Ce qui fait beaucoup d'acronymes déjà.
Donc sciences économiques et sociales et histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques.
Okay.
Mais dans ma classe, on est deux à avoir cette combinatoire. Et moi, j'ai de la chance, je suis sur un lycée où justement, on a des menus de combinatoire préimposés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres lycées. Et parfois, vous pouvez vous retrouver avec des enseignements de spécialité qui ne vont pas ensemble.
Alors, pour pallier à ça, j'ai vu qu'il y avait une association dans les Ardennes qui s'appelle les lycéens, je ne sais pas si vous connaissez, qui a créé en janvier 2023 un site qui s'appelle Pour ton sup et qui est une sorte de pendant à Parcoursup qui montre les filières d'orientation expliquées pour et par les lycéens et qui enlèverait apparemment ce côté très anxiogène. C'est ce qu'il faudrait justement peut-être inclure davantage les lycéens dans leur orientation et peut-être que les lycéens parlent aux lycéens.
Moi, je pense que ce sont les professeurs qui sont dans leur rôle à ce moment-là de nous expliquer dès la classe de seconde quelles pourraient être les filières à privilégier en choisissant certaines combinatoires. Ce site internet, personnellement, je n'en vois pas l'utilité.
Vous, donc là, aujourd'hui, vous demandez le retrait pur et simple de Parcoursup à la voie lycéenne, c'est ça?
Exactement.
Alors parlons aussi, Olivia Lalande, de la réforme des retraites. C'est votre gros sujet du moment. Une réforme contre laquelle vous vous dressez comme beaucoup de Français. On rappelle un chiffre, hein, plus des deux tiers des personnes interrogées sont défavorables à la réforme et les plus opposés sont les moins de 35 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce soit justement les jeunes lycéens, étudiants, les jeunes actifs qui soient les plus en colère contre cette réforme?
Eh bien, puisque on n'est pas dupes, on voit du haut de nos 15, 16, 17 ou 18 ans que cette réforme, elle va nous précariser, parce qu'aujourd'hui, le premier emploi stable, c'est à 27 ans. Et 27 ans, c'est 9 ans après le bac, en théorie. Et enfin, ça fait quand même beaucoup, enfin. Et puis on voit que nos parents, à 45 ans, ils sont déjà malades, ils souffrent de maladies chroniques. Et ils peuvent pas travailler encore une vingtaine d'années ainsi. Et donc, nous, ce qui nous pose aussi le problème, c'est que, justement... En repoussant cet âge de départ à la retraite, on va voir nos parents, nos grands-parents partir plus tard. Et nous, on pourra plus s'insérer sur le marché du travail. Parce que, enfin, aujourd'hui, c'est quand un actif part à la retraite, il y a un nouvel actif qui le remplace, en théorie, dans un système fonctionnel. C'est logique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas cela. Enfin, nous n'aurions pas cela avec cette réforme.
Vous avez peur justement de votre avenir professionnel, de vous dire que peut-être les plans de carrière que vous avez envie de choisir ne pourront pas se dérouler comme vous le souhaitez parce que l'âge de la retraite est repoussé?
Alors, c'est pas forcément que l'âge de départ à la retraite qui me mène à cette interrogation. C'est la réforme du bac aussi, puisque c'est deux choses liées, c'est deux choses qui vont ensemble, puisque on voit... que la réforme du bac nous mène à nous précariser à 18 ans et nous fait poursuivre cette précarité et cette instabilité jusqu'à la fin de notre vie. Et donc oui, aujourd'hui, ça nous mène à nous interroger. On est nombreux à ne pas savoir quelle filière choisir après le bac.
Est-ce que vous savez déjà ce que vous avez envie de faire plus tard?
Moi, personnellement, j'ai un avenir assez incertain, mais ce que je veux, c'est faire de la politique, m'engager et... continuer le combat.
Parce que, en fait, je me permets de poser cette question, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus flou. On n'a pas des carrières toutes tracées, et à 17 ans, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire de notre vie. Donc forcément, on fait un peu plus d'études, donc ça va aussi repousser les annuités. Et forcément, là, la réforme des retraites vous impacte directement.
Tout à fait. Et puis aujourd'hui, enfin, j'avais cette conversation avec un de mes parents hier soir, justement. Et enfin, on en est arrivé au fait de se dire... même en troisième, on nous oriente vers du général ou du professionnel. Et à ce moment-là, vous avez les chanceux qui sont orientés vers le général et les moins chanceux qui sont orientés vers le professionnel. Et ces gens-là, eh ben, ils pourront moins bien se reconvertir, ils auront moins de possibilités. Et ceux qui sont orientés vers le général, justement, ils auront des possibilités de reconversion. Sauf que eux, le choix va se refaire après le bac. Et après le bac, ils vont être contraints à choisir la bonne orientation post-bac pour justement... avoir des possibilités de reconversion, des possibilités de changement d'emploi qui pourraient être plus faciles. Sauf que à 17 ans, vous ne savez pas ce que vous allez faire, c'est incertain.
Et en troisième, on parle même de 13-14 ans. Hein.
Voilà, donc c'est assez problématique et aujourd'hui, c'est au système scolaire qu'il faudrait réformer. Et nous, c'est ce qu'on porte au Conseil supérieur de l'éducation où je suis candidate aujourd'hui.
Enfin, un autre sujet sur lequel je voulais vous faire réagir, Olivia, parce que là aussi les voix s'élèvent de plus en plus, et notamment chez les lycéens, cela concerne le service national universel. Il s'agit d'un séjour de cohésion d'une douzaine de jours proposé aux lycéens, qui entremêle activités sportives, éducation civique et encadrement militaire. Le président Emmanuel Macron envisage de le généraliser à la rentrée prochaine. Bonne ou mauvaise idée ?
Alors, nous, à la voix lycéenne, nous nous opposons à ceci. Puisque, d'une part, nous avons sorti un communiqué de presse pour justement alerter sur cette situation. Et nous, dans le SNU, dans le Service National Universel, comme cela est nommé par le gouvernement, on voit une forme de militarisation de la jeunesse, une forme de soumission de la jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse, justement, elle se bat contre tout cela et elle ne veut pas être soumise à des personnes qui lui sont supérieures. Et puis nous, on voit que ça bénéficie aussi essentiellement aux familles de riches, aux familles qui vivent décemment, aux familles où le père est gendarme, le père est militaire, le père est policier, tout simplement. Et donc, nous, on voit que c'est une forme de mise en danger de la jeunesse.
Alors, pourtant, si je reprends quand même l'idée de départ de ce SNU, c'était de créer de l'engagement, de insuffler l'émancipation, de favoriser aussi la mixité sociale, qui sont trois valeurs, par exemple, que vous portez à la voix lycéenne.
Tout à fait. Tout à fait, sauf que nous, aujourd'hui, nous dénonçons les pratiques de ce service national universel. C'est l'été dernier que, à Grenoble, dans l'Isère, il y a eu un de ces séjours de formation. Et les jeunes qui étaient justement dans ce cadre-ci, ils étaient maltraités. Enfin, il y a eu parfois des surveillants qui les ont forcés à continuer à faire des exercices tant qu'ils n'auraient pas fait le nombre de répétitions de manière parfaite. Et enfin, ça, c'est problématique. C'est une forme de maltraitance, désolé.
Alors, est-ce que le problème, c'est le service en lui-même ou est-ce que c'est l'encadrement et les moyens qu'on y attribue? Parce qu'on entend parler, par exemple, de sommes faramineuses qui arriveraient sur ce SNU, mais avec quel encadrement, avec quels ateliers? Est-ce qu'on peut se dire quand même que le service national universel n'est pas forcément une mauvaise chose, mais que la manière dont c'est mené, en tout cas, c'est celle que vous dénoncez?
Alors, oui et non. Oui, parce que justement, ça peut permettre à la jeunesse d'être dans un cadre où on se réunit, où on vit ensemble et où on apprend à vivre ensemble tout simplement. Le service militaire a été supprimé à la fin du siècle dernier, c'est qu'il y avait une raison. Enfin, c'est que c'est peu attractif, c'est que aujourd'hui, les jeunes, ils en voient pas l'intérêt et ils ont pas forcément envie d'être soumis à l'autorité nationale.
Olivia Lalande, vous avez 17 ans. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes aussi qui, aujourd'hui, ne seraient pas forcément engagés comme vous? Alors, j'imagine que tout le monde n'a pas envie de se lancer dans une grande carrière politique, d'être encarté, de faire absolument toutes les manifs, mais peut-être un juste milieu à trouver entre faire absolument toutes les manifestations, les mobilisations, et ne pas s'engager du tout. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui seraient dans l'entre-deux?
Alors, moi, je dis aux jeunes qu'il faut pas hésiter à nous contacter, pas hésiter à nous rejoindre et que l'engagement, ça commence déjà rien qu'en repartageant nos publications sur les réseaux sociaux. Ça, c'est déjà le premier pas de l'engagement, le premier pas du soutien du syndicat. Et après, de venir en manifestation, à nos rassemblements, à nos diffusions de tracts ou même à parfois nos blocus devant les établissements pour s'engager un peu plus. Mais déjà, en premier, nous appelons les lycéens à nous contacter, à nous poser des questions quand ils en ont, et puis à ne pas hésiter, c'est surtout ça.
Ces dernières semaines, c'est quasiment un blocus par semaine devant les établissements clermontois, notamment dans les lycées Jeanne d'Arc et Blaise Pascal. Les blocus, ça peut changer la donne ou pas? Ça peut faire la différence dans vos mobilisations?
Alors oui, on a vu ça avec les précédents mouvements jeunes, où on a vu que le gouvernement recule quand c'est la jeunesse qui se mobilise sérieusement, que ce soit par l'intermédiaire de blocus ou de manifestations. Sauf qu'on voit que les blocus, ça marche encore mieux. Que le gouvernement, il a peur de la jeunesse, il a peur des lycéens en particulier. Et donc nous, on appelle à continuer les blocus, continuer la mobilisation massive devant les établissements, sans violence certes, évidemment, puisque c'est problématique. Mais par contre, c'est ça qui peut faire reculer le gouvernement face à ces réformes mortifères.
Merci beaucoup, Olivier Lalande, d'avoir été avec nous sur RVA et d'avoir évoqué ce syndicat qui est La Voix lycéenne, que vous pouvez notamment retrouver sur les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple. Merci à vous.
Merci à vous.